Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 24 Tir, 1402 du calendrier iranien, 15 juillet 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Moscou et Téhéran envisagent la création d'une compagnie maritime conjointe, selon l'ambassadeur d'Iran en Russie. Les messages de condoléances affluent suite au décès de l'éminent religieux libanais, le cheikh Afif al-Naboulsi. Les îles Abu Moussa et Tomb, l'Iran revendique fermement leur propriété, et l'Ukraine a admis que ses troupes n'avançaient pas aussi rapidement contre les forces russes au sud et à l'est. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Les messages de condoléances affluent suite au décès de l'éminent religieux libanais, le cheikh Afif al-Naboulsi, lui qui était un fervent partisan de la résistance contre Israël. À cette occasion, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a présenté ses condoléances au secrétaire général du mouvement de résistance libanais, Hezbollah. Le ministre iranien des Affaires étrangères a à son tour salué les efforts d'al-Naboulsi pour amener l'unité parmi les musulmans. Hossein Amir Abdullahian a également félicité Naboulsi pour sa position courageuse contre le régime israélien et son soutien à la résistance palestinienne et libanaise. Le commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran a déclaré que les forces armées iraniennes continueraient à protéger fermement chaque iota du territoire du pays. Le général de division, Abdelrahim Moussavi, a fait ces remarques lors d'une réunion avec un certain nombre de commandants et d'adjoints de l'armée en réaction à une récente déclaration conjointe publiée par le Conseil de coopération du Golfe Persique et la Russie à propos des trois îles du Golfe Persique. Dans leur déclaration, les ministres des Affaires étrangères des pays arabes du Golfe Persique et de la Russie avaient appelé à une solution pacifique à la question des îles de la Grande et de la Petite Tombe et d'Abu Moussa qui font partie du territoire iranien. Le général Moussavi a répondu à la déclaration approuvée par les Émirats arabes unis et a affirmé « Nous sommes très sensibles à chaque iota du sol de notre pays et à tout ce qui se dit de temps à autre sur les propriétés de la République islamique d'Iran. » L'Ukraine a admis que ses troupes n'avançaient pas aussi rapidement contre les forces russes au sud et à l'est. Le chef du bureau présidentiel ukrainien a ajouté que Kiev ne négocierait pas avec Moscou tant que toutes les forces russes n'auraient pas quitté le territoire ukrainien. Les commentaires d'Andrei Yermak interviennent alors que l'Ukraine lance sa contre-offensive tant attendue contre les forces russes. L'offensive profite du soutien militaire occidental, dont des armes à sous-munitions interdites au niveau international que Kiev a reçues des États-Unis. Moscou a mis en garde contre des contre-mesures si Kiev utilise les bombes contre les troupes russes. Des rapports en provenance du Soudan ont fait état de violents affrontements entre les parties belligérantes alors que de nouveaux efforts internationaux ont été déployés pour mettre fin à la guerre dans ce pays africain. Les habitants de la ville septentrionale de Bahri disent avoir entendu le bruit de frappes aériennes, de tirs d'artillerie et de coups de feu tout au long de la journée. Bahri est situé au nord de la capitale soudanaise, Khartoum. Selon les rapports contradictoires sur la situation dans la ville, les deux parties ont toutes les deux revendiqué des gains dans la bataille. Malgré les affrontements, les parties belligérantes ont salué le nouvel effort de médiation initié par l'Égypte. La guerre au Soudan a éclaté entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide à mi-avril. Les conflits ont fait plus de 3000 morts et provoqué une crise humanitaire à grande échelle dans ce pays africain. La Chine a exhorté l'Union européenne à réduire ses tergiversations et à adopter une position claire alors que bloc des 27 pays reste divisé sur l'opportunité de maintenir des liens économiques ou de réduire sa dépendance par rapport à Pékin. Le haut diplomate chinois Wang Yi a déclaré au chef de la politique étrangère de l'Union européenne que le bloc devait clarifier son partenariat stratégique avec Pékin. Wang Yi s'entretenait avec Joseph Borrell en marge du sommet de l'ASEAN en Indonésie vendredi. Wang a déclaré que les intérêts fondamentaux de la Chine n'entraient pas en conflit avec ceux de l'Union européenne. Ces échanges surviennent alors que le bloc a déclaré qu'il cherchait à réduire les risques liés aux relations avec la Chine et ne cherchait pas à se découpler de l'économie chinoise. Et enfin, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un budget de défense record de 866 milliards de dollars pour l'année 2024. Le projet de loi a été approuvé par un vote de 219 contre 210, presque exclusivement selon les lignes de parti. L'enveloppe budgétaire prévue couvrira des dépenses pour contrer la Chine et 300 millions de dollars supplémentaires pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Cependant, un certain nombre d'amendements introduits par la majorité républicaine à la Chambre des représentants ont mis un bémol dans le soutien des démocrates. Ces modifications incluent des restrictions sur les services de santé liés à l'avortement pour le personnel. Les amendements signifient que la législation sera un terrain rocailleux au Sénat américain, contrôlé actuellement par les démocrates qui soutiennent le gouvernement du président Joe Biden. Là-bas, les démocrates devraient entamer le processus d'adoption de leur propre version du projet de loi sur la politique de défense la semaine prochaine. Il doit également être approuvé par la Chambre des représentants avant d'être promulgué. L'ambassadeur d'Iran en Russie, Kazem Jalali, a déclaré que Téhéran et Moscou discutaient de la possibilité de créer une compagnie maritime conjointe, alors que les deux parties s'efforcent de renforcer davantage leur coopération stratégique. Lors d'une interview accordée vendredi à la chaîne d'information russe Rossiya 24, Kazem Jalali a affirmé que les responsables iraniens et russes ont mis au point la création d'une compagnie maritime conjointe dans le cadre des efforts visant à renforcer la flotte maritime russo-iranienne. Il est nécessaire de renforcer nos ports, il est nécessaire aussi de renforcer la flotte maritime, même de créer une compagnie maritime conjointe. Je viens d'avoir une conversation à ce sujet avec le premier vice-premier ministre russe, Andrei Belousov. Le ministre iranien du transport en a également discuté avec lui. Nos homologues russes se réjouissent de la création d'une compagnie maritime conjointe, a fait remarquer l'ambassadeur d'Iran en poste à Moscou. Les deux pays doivent développer les ports et les relier comme des chemins de fer, a-t-il ajouté. Il a poursuivi que le potentiel de transport de marchandises y est énorme. Moscou et Téhéran travaillent ensemble sur plusieurs fronts, facilitant le commerce et les affaires bilatéraux, accélérant l'achèvement des routes de transit, y compris le corridor de transit nord-sud et sa composante de la mer Caspienne, et reliant leur système bancaire pour faciliter les transactions financières. Cela intervient alors que la République islamique d'Iran et la Russie prévoient d'ouvrir plusieurs nouveaux domaines de coopération en finalisant un accord de coopération stratégique à long terme. Selon des rapports officiels, le commerce entre les deux pays a doublé en 2022 et la Russie a investi 2,76 milliards de dollars au cours de l'année du calendrier iranien qui s'est terminé en mars, devenant ainsi le plus grand investisseur étranger de l'Iran. Les deux parties visent également à réduire l'usage du dollar américain dans les transactions régionales et internationales, soutenues par plusieurs pays afin de minimiser la domination de l'Occident sur l'économie mondiale. La Russie et la République islamique d'Iran renforcent leur coopération malgré les sévères sanctions de l'Occident qui les visent. L'Iran a été frappé par des sanctions américaines unilatérales imposées par Washington après que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré un retrait unilatéral du plan global d'action conjoint en mai 2018 et a ciblé l'économie iranienne avec sa politique de pression maximale malgré le plein respect par l'Iran de ses obligations nucléaires en vertu du plan global d'action conjoint. Les efforts diplomatiques multilatéraux pour relancer le plan global d'action conjoint sont au point mort depuis août dernier. La République islamique d'Iran reproche aux États-Unis de ne pas fournir les garanties nécessaires pour le respect de cet accord.
à tous, bienvenue sur les plateaux de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. L'une des actualités de la semaine étant la visite du président M. Raisi en Afrique, notamment trois pays africains. C'est le sujet de notre débat du jour. Nous commencerons d'abord par le reportage préparé sur le sujet et par la suite pour la venue de nos invités qui parleront donc de cette venue du président iranien. Plus d'une dizaine d'années, ça s'est écoulé depuis qu'un dernier président est venu sur le continent africain pour une visite diplomatique. C'est le sujet du jour, c'est l'actualité de la semaine. Tout de suite donc, je vous propose notre reportage.
Mercredi matin 12 juillet, 5 documents de coopération ont été signés en présence des présidents iraniens et kényans au palais présidentiel à Nairobi, capitale du Kenya. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue kényan, William Ruto, le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, a évoqué les longues relations historiques entre l'Iran et le Kenya. Nous avons la conviction que la coopération entre Téhéran et Nairobi et la coopération de l'Iran avec tous les pays du continent africain peuvent se développer de plus en plus, a-t-il déclaré. Dans le cadre de sa tournée africaine, le président Raisi se rend tour à tour au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe. Depuis plusieurs jours, le voyage du président en Afrique a attiré l'attention des médias internationaux qui voient les signes de la promotion des coopérations de la République islamique d'Iran en dépit des sanctions illégales des États-Unis contre Téhéran. La Société de presse a qualifié la tournée africaine du président Ebrahim Raisi de sans précédent, soulignant que malgré les efforts de l'Occident pour isoler l'Iran sur les plans politiques et économiques, Téhéran cherchait à approfondir ses liens avec divers pays du monde sur tous les continents. La Société de presse a rappelé que la dernière tournée africaine d'un président iranien avait eu lieu il y a une dizaine d'années. Le Kenya est un pôle économique important de l'Afrique orientale et il est souvent considéré comme un allié régional des États-Unis dans cette partie du continent. Le président américain Joe Biden a visité le Kenya au début de l'année en cours. En 2022, les États-Unis et le Kenya ont signé une note d'entente pour développer un partenariat dans le domaine du nucléaire non militaire, étant donné l'intérêt de Nairobi à se doter de l'énergie nucléaire civile. Le site d'analyse AlMonitor a estimé, dans un article consacré à la tournée africaine du président Ebrahim Raisi, que la République islamique était en train d'activer sa politique étrangère dans le continent africain pour atténuer les conséquences des sanctions que l'Occident voulait paralysantes. AlMonitor rappelle que pendant ces deux dernières années, le président Ebrahim Raisi a visité à plusieurs reprises des pays amis comme la Chine et les alliés latino-américains de Téhéran. Le gouvernement du président Raisi a réussi pendant cette période à officialiser l'adhésion à part entière de la République islamique d'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et faire suivre une demande d'adhésion au groupe BRICS. AlMonitor a estimé que l'un des objectifs de voyage du président Raisi et d'encourager ses hôtes à développer les échanges $100. Dans ce droit à fil, l'Iran propose à ses partenaires des mécanismes financiers fondés sur l'usage des monnaies nationales pour libérer son économie de l'emprise et de l'hégémonie du dollar américain.
Nous revoilà donc sur les plateaux de Presse TV. D'abord, la venue de notre premier invité concernant donc le débat. Je vous propose donc la venue de M. Luc Michel qui a accepté notre invitation. M. Luc Michel, analyste politique, notamment sur la question panafricaine. Bonjour M. Luc Michel, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous et à toute votre équipe.
Alors,
c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis surtout sur politicien.
Merci, monsieur Luc Michel, pour cette information. Alors, monsieur Luc Michel, vous avez souvent été fervent donc, de la cause iranienne, du fait, vous avez souvent critiqué également la volonté des pays occidentaux de vouloir les séparer du monde, en tout cas surtout d'un point de vue économique. Peut-on dire que ce voyage du président Raisi est finalement également encore un détail ou une information importante concernant l'échec du monde occidental dans sa volonté de séparer l'Iran du reste du monde?
Écoutez, la volonté d'isoler l'Iran, comme la volonté d'isoler la Russie, est un échec complet des Occidentaux. Il y a aujourd'hui un axe stratégique, Russie-Iran, qui vise à libérer l'Afrique. Il s'agit d'offrir aux chefs d'État africains un choix géopolitique qui n'est plus limité à huis clos avec l'Occident. On notera que l'Iran, lors de son voyage de président iranien, va visiter deux alliés étroits des États-Unis, qui sont notamment le Kenya et l'Ouganda. Il avait déjà des liens avec le Sénégal. Ce sont des États africains qui sont détachés des États-Unis, progressivement. Mais la géopolitique iranienne aujourd'hui, elle est fort différente d'il y a 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, c'était une géopolitique centrée sur les communautés chiites. Ça reposait sur la théorie géopolitique du poisson chiite, qui est une théorie américaine, définie par l'ambassadeur des États-Unis à Kaboul, Canada. Il s'agissait d'opposer chiite et sunnite. Aujourd'hui, c'est terminé. Que ce soit l'actionnariat, mais aussi la géopolitique iranienne en Afrique. C'est une géopolitique qui reste pour cette ville des États-Unis. Les laïcs, les sunnites, les chiites, les anti-impérialistes, partisans du bipolaire.
Merci, Monsieur Luc Michel. Alors, notre deuxième invité du jour étant Monsieur Nkodo, éditorialiste à la publication Horizon, basé au Cameroun. Bonjour, Monsieur Nkodo. Ravi de vous avoir en tant qu'invité ici sur les plateaux de Presse TV.
Bonjour, madame, et merci une fois de plus de me solliciter pour mon analyse sur l'actualité concernant la tournée africaine du président iranien.
Alors, comme l'a indiqué M. Luc Michel, c'est un voyage, également notre reportage, c'est un voyage extrêmement important. Plus d'une dizaine d'années s'est écoulée depuis qu'un président a mis un pied sur le continent africain. Est-ce que vous voyez ça de manière positive? Est-ce que les propositions que l'Iran veut faire au continent africain est une proposition que les Africains attendent et sollicitent?
Bien entendu, madame. Vous savez, l'Iran fait partie des puissances émergentes qui n'ont pas à leur actif le néocolonialisme, le terrorisme et le pillage des ressources naturelles africaines. Et naturellement, c'est un pays qui est la cible de la Fédération internationale depuis près d'un demi-siècle, suite aux sanctions américaines qui sont abattues sur ce grand peuple. Et heureusement, qui résiste et continue à pousser, à grandir. Donc, les États africains, qui sont déjà sous le coup des sanctions permanentes pour l'injustice ou de la prédation, les institutions de Bretton Woods ont tout tiré des leçons de l'expérience iranienne qui, déjà, peut être un apport stratégique en matière d'une part de la conscience de la souveraineté africaine, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Je crois donc par conséquent que les pays africains n'ont plus bien attiré l'Iran qui, comme vous le savez très bien, a été dit sous le coup des sanctions américaines et même occidentales depuis de très longues années, mais malgré cela, continue à tenir tête et à pousser son chemin vers son développement. La visite annoncée, la visite du président iranien en Afrique est donc une occasion pour les Africains à saisir pour vivre ou alors pour échanger, pour partager l'expérience iranienne face à l'injustice internationale.
Merci, Monsieur Nkodo. Alors, toujours pour vous, alors, on sait que concernant le continent africain, concernant ses relations avec l'Europe, l'Occident, que ce soit la Russie ou même l'Asie avec la Chine ou encore l'Occident avec l'Europe et les États-Unis, beaucoup indiquent que quel que soit le partenaire, il y aura toujours exploitation des minerais africains, exploitation du continent africain. Est-ce que le continent africain, vous-même, vous êtes basé au Cameroun, ont le même sentiment avec cette coopération voulue avec l'Iran?
Bon, écoutez, il y aura toujours l'exploitation des ressources naturelles. D'ailleurs, ce qui guide le choix ou la prédation, qui impose la prédation occidentale sur les pays africains. Mais là, il s'agit davantage pour les pays africains de penser les contrats qui les lient avec leurs partenaires. L'Iran, ni l'Iran, ni la Russie, et encore moins les pays occidentaux, ne viennent faire des dons à l'Afrique, les régions africaines, d'être à la hauteur, des exigences en faveur de leur développement. Maintenant, si en marge de cela, on ajoute la pollution ambiante, qui est quand même un facteur déterminant dans les rapports avec les pays occidentaux, et cette pollution qui est d'ailleurs entretenue par les pays occidentaux, qui préfèrent tout prendre aux Africains et aux Africains dans leur quoi que ce soit. Je crois que l'expérience, une fois de plus, l'expérience iranienne serait une expérience beaucoup plus humaniste, contrairement aux expériences foireuses avec les pays occidentaux. Il faut le rappeler, date depuis la tête régulière jusqu'à ce jour, en passant par la colonisation et la néocolonisation. Aujourd'hui, il serait important pour les Africains de changer de paradigme en matière de développement et de changer de paradigme en matière de leur projet de développement et surtout s'inspirer des expériences du passé pour repartir avec des partenaires plus disposés à leur accorder une oreille attentive et à coopérer avec eux égal à égal et non dans une relation de maître à expert.
Merci, Monsieur Nkodo. Alors, Monsieur Luc Michel, on a entendu beaucoup d'informations concernant les banques internationales, comme quoi ils regroupent leur or. Les banques nationaux des pays ne font plus confiance après les dernières sanctions contre la Russie ou concernant les banques européennes. On sait que le président Raisi, dans ses coopérations, il propose notamment des échanges avec les monnaies nationale. Est-ce que vous y voyez comme un pas vers l'avenir? Finalement, le président iranien vient proposer une solution à long terme pour les pays qui pourraient avoir peur de rester dans le système SWIFT.
Mais bien entendu, la dédollarisation du monde, elle passe par des échanges économiques, en particulier dans le domaine des hydrocarbures, par les monnaies nationales. On retiendra que les Américains ont sapé eux-mêmes les fondements de l'ordre économique mondial en introduisant des sanctions contre l'Iran et contre la Russie. Plus personne n'a confiance en eux. Plus personne n'a confiance en le dollar aujourd'hui. Par contre, l'Iran ou la Russie proposent des partenariats gagnant-gagnant.
Merci, M. Luc Michel. Il y a également le fait que l'Iran a une grande chance de rentrer dans les BRICS. Est-ce que vous pensez que le continent africain est sensible au fait que l'Iran va peut-être être le futur membre de cette organisation BRICS, et donc avec cette future monnaie qui pourrait arriver, monnaie en tout cas électronique qui pourrait arriver? Est-ce que c'est une raison également au fait que les pays africains font un pas en avant, parce que l'Iran, depuis même les accords de Vienne, n'a pas été inactif, a souvent sollicité les pays africains, a souvent envoyé à ses représentants diplomatiques? En quoi maintenant l'Afrique pourrait être intéressée par l'Iran?
Ben écoutez, l'Iran a été un poisson pilote dans le domaine économique. Elle a ouvert des corridors anti-sanctions pour le Venezuela, la Russie, des États africains. Aujourd'hui, en Afrique, elle offre un champ véritable. L'exemple typique, c'est le Sénégal. En 2014, Macky Sall est un chef d'État élu avec l'aide de Georges Soros. Aujourd'hui, il est un participant du corridor Caracas Téhéran Dakar qui vise à vendre des hydrocarbures africains, vénézuéliens, iraniens contre les sanctions américaines. Tout cela, ça représente sur la diplomatie iranienne.
Merci, M. Buchel. M. Nkondo, vous êtes d'accord? Est-ce que le fait que l'Iran s'est battu contre les sanctions et trouvé leur propre voie anti-sanctions et mis en place de leur propre système, est-ce que ce sont des arguments qui pourraient attirer donc les pays africains au vu de la situation économique internationale?
Oui, je l'ai dit, l'Iran a vécu sous les tensions pendant de très longues années, pendant des décennies d'ailleurs. Mais jusque-là, l'Iran a poursuivi son chemin vers le développement, un développement qui aujourd'hui place l'Iran au sens des questions géopolitiques mondiales. Donc l'Afrique, par contre, n'est pas victime des sanctions ou de manière officielle, mais l'Afrique vit la sanction. Par exemple, sur le plan de la monnaie, une grande partie des pays africains francophones sont sous le coup du franc CFA, qui est une monnaie néo-esclavagiste et qui participe dangereusement à la paupérisation des pays africains. Or, on ne parle pas de sanctions en imposant aux pays africains l'utilisation du franc CFA. Pourtant, le franc CFA n'est autre que du terrorisme financier. L'Iran, en ouvrant une fenêtre sur l'utilisation des monnaies locales dans les échanges avec le continent, cela pourrait bénéficier à plusieurs pays africains, mais je préfère émettre des réserves en ce qui concerne les pays francophones qui, dans l'ensemble, n'ont pas leur monnaie nationale. Et une fois de plus, c'est la France qui pourrait, c'est le français qui pourrait tirer profit du jeu au niveau des échanges internationaux. Mais pour le reste, l'Afrique a impérativement besoin de s'inspirer de l'exemple de l'Iran pour se reprojeter sur le long terme. Parce que l'Iran l'a démontré avec les mêmes sous-sanctions, de manière des sanctions à la limite sauvage. L'Iran est resté l'Iran. L'Iran a continué à poursuivre son développement sur tous les plans, dans tous les secteurs, même les plus pointus. L'Afrique, qui officiellement n'est pas sous sanction, pourtant vit sous la sanction de la prédation internationale à travers surtout l'Afrique francophone, à travers la monnaie, à travers les chefs d'accord néocolonialistes, n'est pas pour autant libre. Au contraire, l'Afrique ne jouissant pas d'une souveraineté véritable est également sous sanction, mais des sanctions beaucoup plus cyniques et beaucoup plus criminelles d'ailleurs que celles dont subi jusqu'à aujourd'hui l'Iran, puisque ces sanctions dont subit l'Afrique ne sont pas des sanctions officielles, mais elles rentrent dans le cadre des accords de coopération totalement contre-productifs ni pour la souveraineté, ni pour le développement de l'Afrique. Donc l'Iran peut donc beaucoup apporter si jamais les Africains pouvaient déjà eux-mêmes s'intéresser à leurs véritables questions de développement. L'Iran pourrait beaucoup apporter par rapport à son expérience pour contrôler les sanctions, pour vivre avec les sanctions et surtout les surmonter et poursuivre la marche vers le développement. L'Afrique, aujourd'hui, comme je ne cesse de le répéter, n'est pas officiellement sous sanctions, mais vit sous le coup du néocolonialisme, qui sont d'ailleurs pires que les sanctions dont l'Iran vit depuis des décennies.
Merci, M. Nkondo. Alors, M. Luc Michel, vous êtes d'accord avec les propos tenus par notre deuxième invité? Est-ce que vous vouliez rajouter également quelque chose d'autre par rapport à cette perspective Afrique-Iran?
Non, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut retenir quelque chose aujourd'hui. C'est que l'Iran est une grande puissance anti-impérialiste qui, aux côtés de la Russie, combat la domination mondiale et le gouvernement mondial américain. C'est cela que l'on retiendra.
Monsieur Luc Michel, toujours concernant, on sait que dans cet été et puis en fin de cet été, beaucoup de réunions vont se faire avec le continent africain. On sait aussi qu'une autre réunion, on sait que la réunion de l'OTAN vient de finir, on sait qu'une autre réunion des BRICS va avoir lieu. Il y a un calendrier très riche jusque fin 2023-2024 qui va se faire tout autour du continent, notamment africain. Est-ce que vous attendez à des mouvements de la part des continents africains, des décisions prises importantes?
Écoutez, il y aura un alignement de plus en plus important sur la Russie et l'Iran. Les deux grands événements, c'est le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg à la fin du mois et le prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud. À cette occasion, d'ailleurs, les BRICS défient les États-Unis, puisque les Occidentaux demandaient l'arrestation par la CPI de Vladimir Poutine et qu'il a été invité en Afrique du Sud.
Merci, monsieur Nkondo. Vous êtes d'accord avec les propos tenus par Luc Michel. Ces réunions vont être importantes et vous-même, vous êtes sur le continent africain. Vous attendez à certaines décisions prises par les pays africains?
Bien sûr. D'ailleurs, les pays africains n'ont pas la mesure élargie pour pouvoir trouver des amorces, des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Les BRICS font partie de l'alternative face au système mondial contrôlé de manière arbitraire par l'élection de Bretton Woods. Je pense qu'avant que les BRICS qui attendent la non-paix du fait devraient s'inscrire dans une dynamique d'équilibre des autres en matière de développement. Parce que d'un côté, on a l'élection de Bretton Woods qui opère librement et de manière monopoliste depuis de très longues décennies, mais qui, contrairement aux attentes et aux discours officiels, n'ont jamais accompagné le développement des pays africains. Or, de l'autre côté, on a des pays qui arrivent et qui peuvent apporter une autre alternative, justement, en faveur des pays africains. Mais là, il revient aux Africains d'être à la hauteur et de se débarrasser des mauvaises habitudes acquises dans la plupart des pratiques de corruption acquises avec la conquête des institutions de Bretton Woods. On a beaucoup attendu des BRICS, mais les BRICS vont être prêts à tout donner aux Africains, mais il reviendra aux Africains de faire preuve de sérieux, de savoir ce qu'ils font et de se débarrasser des mauvais réflexes liés à la corruption systémique des élites. Donc, je crois que il y a déjà une chef parlé du forum économique et matériel de Saint-Pétersbourg. Il y a le forum, il y a le sommet des BRICS. Voilà deux éléments majeurs qui devaient interpeller les Africains ou les dirigeants africains actuels pour une question massive afin d'apprécier l'assiette qu'ils offrent des deux événements. Vivement que cela ait lieu et que les Africains aient le courage, sinon les dirigeants africains aient l'audace de se tourner vers d'autres partenaires afin de rompre avec ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, nous ont apporté que des larmes et des pleurs.
Merci, Monsieur Nkondo. Alors, je rappelle les deux invités que nous avons eus aujourd'hui concernant donc les coopérations signées avec l'Iran et l'Afrique. Alors, je vous rappelle donc premier invité, Monsieur Luc Michel, géopoliticien, et deuxième invité étant Monsieur Pierre Clever Nkondo, éditorialiste à la publication Horizon, basé au Cameroun. Je vous remercie, vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre notre programme, revoir notre programme sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook ou encore VK ou Twitter encore. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser une question. On pourrait peut-être l'utiliser pour notre prochain débat. C'est la fin donc de ce programme. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet du débat ici dans la capitale iranienne. Téhéran. Au revoir.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Le dollar va mourir. Les BRICS pourraient porter un coup au billet vert via une crypto-monnaie. Le fameux économiste Robert Kiyosaki a affirmé que les BRICS allaient mettre le dollar en délicatesse à travers la création d'une crypto-monnaie. Le groupe réfléchit toujours à la création d'une devise commune. Le dernier clou dans le cercueil, alors que le dollar est amoindri par une dette américaine hors de contrôle et d'importants efforts de dédollarisation, le coup de grâce pourrait venir d'ailleurs, a déclaré l'économiste Robert Kiyosaki. L'auteur du best-seller « Père riche, père pauvre » a affirmé que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, allait sortir une crypto-monnaie commune adossée à de l'or. L'annonce devrait être faite fin août, à l'occasion du sommet du groupe à Johannesburg. En conséquence, l'économiste estime que le dollar va en prendre un coup. Il conseille aux investisseurs d'acheter de l'or et du bitcoin, qu'il voit bien remonter à 120 000 dollars l'an prochain. Le 22 août 2023, à Johannesburg, en Afrique du Sud, les pays des BRICS annonceront une crypto-monnaie adossée à l'or. Le dollar va mourir. Des milliers de milliards de dollars américains vont revenir à la maison. L'inflation va exploser. Ainsi écrit Robert Kiyosaki sur Twitter. Depuis plusieurs semaines, les BRICS sont en discussion pour créer une monnaie commune en vue de réduire leur usage du dollar et d'alléger le fardeau des pays en développement. Le dossier reste néanmoins complexe, avait récemment admis la présidence sud-africaine. En parallèle, les paiements en devises nationales se sont aussi accentués entre les États membres du groupe. En 2024, les BRICS devraient d'ailleurs tester le système commun de paiement BRICS Pay, visant à faciliter ce type d'échange. De nombreux autres pays envisagent également de lancer leur propre crypto-monnaie nationale, y compris en Afrique. Le Nigeria a déjà pris les devants en proposant le Naira en 2021. Maurice et la Tanzanie pourraient être les prochains sur la liste. Cas de figure un peu différent. Le Zimbabwe a lui aussi mis en place une devise numérique établie sur l'or. Elle n'est cependant pas censée remplacer le dollar zimbabwéen, mais vient soutenir les véritables jetons en or. Introduit en 2022 pour combattre l'inflation, comme l'expliquait récemment à Sputnik Angelina Akimenko, experte en monnaie numérique. La Russie envisage de discuter d'un passage aux monnaies nationales dans les échanges avec les pays d'Asie du Sud-Est, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères. La décision s'inscrit dans le cadre des efforts de Moscou pour abandonner le dollar américain et l'euro dans les règlements commerciaux. À la suite des sanctions occidentales contre Moscou, le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, a diminué de 4,4% en 2022, a indiqué le ministère dans un communiqué avant la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Jakarta, en Indonésie. Pour améliorer la situation, la Russie travaille au lancement de consultations sur l'introduction de monnaie nationale dans les règlements mutuels, a déclaré le ministère des Affaires étrangères sur son site Internet. Lavrov est à Jakarta cette semaine pour rencontrer ses homologues de l'ASEAN afin de renforcer les liens. Suite à l'imposition de sanctions, la Russie et ses partenaires commerciaux parmi les pays en développement ont intensifié leurs efforts pour réduire l'utilisation du système financier occidental et remplacer le dollar américain et l'euro par des monnaies nationales pour les règlements commerciaux. La tendance est soutenue par les membres des BRICS ainsi que de nombreux autres pays qui souhaitaient rejoindre l'Union. Parmi les devises largement utilisées à la place du dollar américain figurent le rouble russe, le yuan chinois et le dirham des Émirats arabes unis. La part du rouble dans les opérations de commerce extérieur de la Russie continue de croître sur une base mensuelle, selon les données de la Banque de Russie. Selon les calculs, 39% des paiements pour les livraisons à l'exportation russe en mai ont été effectués dans la monnaie nationale, ainsi que 30% pour les importations. La part des devises toxiques, le dollar américain et l'euro, a quant à elle baissé dans les exportations et les importations à respectivement 33% et 35%, a indiqué le régulateur. Parallèlement à l'augmentation de la part du rouble, le poids du yuan chinois dans les opérations de commerce extérieur de la Russie a également augmenté. Il a atteint 25% dans les exportations en mai contre 23% en avril et s'est maintenu à 31% dans les importations. En termes de valeur, les recettes d'exportation mensuelles en yuan sont passées de 7,4 milliards de dollars à 8,4 milliards de dollars et de 8 milliards de dollars à 8,1 milliards de dollars en paiement d'importation. La Russie a activement commencé à remplacer le dollar et l'euro dans le commerce extérieur l'année dernière, au milieu des sanctions occidentales imposées à la suite du conflit avec l'Ukraine. La Russie a depuis considérablement réduit le nombre de comptes bancaires et de transactions entre entreprises et institutions financières impliquant des devises occidentales. Avant le conflit, la part du dollar américain et de l'euro dans les colonies russes était d'environ 90%. Le ministère russe des Finances a déclaré le mois dernier qu'il s'attend à ce que la part des devises occidentales dans le commerce de la Russie chute encore à 10-15% d'ici la fin de l'année. Selon les chiffres officiels, en juin, la part du rouble dans les règlements entre la Russie et les pays de l'Union économique eurasienne, UE, avait atteint 75%, tandis que plus de 80% des règlements entre la Russie et la Chine étaient effectués soit en rouble, soit en yuan. Le commerce entre la Russie et la Chine en janvier et juin 2023 a augmenté de 40,6% en glissement annuel, ont révélé les données de l'Administration générale des douanes chinoises. La Chine a exporté pour 52 284 milliards de dollars de marchandises vers la Russie au cours de la période, tandis que les exportations de la Russie vers la Chine ont augmenté de 19,4% pour atteindre 62 263 milliards de dollars. En 2022, le commerce Russie-Chine a augmenté de 29,3% en glissement annuel pour atteindre 190 271 milliards de dollars. Pendant ce temps, le commerce entre la Chine et les États-Unis a diminué de 14,5% pour atteindre 327 264 milliards de dollars au premier semestre 2023. Les exportations de la Chine vers les États-Unis au premier semestre ont diminué de 17,9% en glissement annuel pour atteindre 239 035 milliards de dollars, tandis que les importations américaines vers la Chine ont atteint 87 913 milliards de dollars, soit une baisse de 3,7% par rapport à la même période en 2022.